J'aimerais parler sur garder la foi malgré le criblage de Satan dans Luc chapitre 22 et le verset 31. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Amen. Il y a des moments dans la vie où nous passons par le criblage de Satan. C'est arrivé à Pierre et ça nous arrive aussi en tant que disciples. Personne ne le veut, personne ne l'aime, mais tôt ou tard, ce criblage arrive sur notre route. Alors qu'allons-nous faire? Comment allons-nous réagir? Jésus a déjà averti Pierre qu'il allait subir ce criblage. Et pourtant, Pierre ne se doute de rien. Il est assez présomptueux quand on regarde le texte, puisqu'il dit « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort ». Donc il imagine qu'il a la force et qu'il va réussir par ses propres capacités à surmonter la difficulté. Donc il ignore vraiment la violence du combat qui va arriver sur lui et il est très confiant, mais peut-être on dira qu'il est présomptueux, c'est-à-dire qu'il se croit capable de choses finalement dont il n'est pas capable. Et aujourd'hui, lui qu'il se croit fort, il se croit prêt à mourir pour Christ, eh bien rapidement on se rendra compte qu'il n'y arrive pas et qu'il va renier Jésus à trois reprises. Ça va se passer le lendemain, lorsque Jésus va être arrêté et qu'on va dire « Mais toi aussi, tu es un de ses disciples » et trois fois, il va nier être un disciple du Seigneur. Donc Jésus entend bien ses paroles, il voit sa détermination, mais il sait la suite, parce que Jésus voit tout d'avance et il sait comment nous allons réagir. Mais en même temps, le message est positif parce que Jésus dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Donc en même temps, Jésus sait, en même temps Jésus prie pour que notre foi ne défaille point. Alors peut-être on est dans cette situation, on se croit capable, mais on a besoin du soutien de Dieu, on a besoin de cette prière qui va nous garder dans les moments de l'épreuve, afin que nous soyons dans la main de Dieu. Alors le premier point, c'est le criblage de Satan. Le criblage de Satan, puisque il est mentionné ici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. On sait que le crible, c'est un instrument qui sert à séparer la balle du grain, donc pour isoler le grain, donc il va y avoir comme une secousse, on secoue, et il y a cette séparation qui s'opère. Jésus a été criblé aussi lors de la tentation. À trois reprises, Satan est revenu à la charge en le tentant, transforme ses pierres en pain, si tu as faim, puisque Jésus jeûnait depuis 40 jours. Et à chaque fois, Jésus répondait avec la parole de Dieu. Satan l'a placé en haut du temple et lui a dit « Jette-toi en bas et tu verras que des anges viendront te protéger, il ne t'arrivera aucun mal. » Et il le poussait à faire des actes pour se révéler comme le Messie, avant la croix. Ou alors il l'a mis sur une montagne élevée en lui disant « Voilà tous les royaumes de la terre, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et donc, ces attaques permanentes, ces attaques soutenues, continues, c'est une forme de criblage. Et à chaque fois, Jésus résistait en citant la parole de Dieu. Et Paul nous avertit du combat dans lequel nous sommes, dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 16. Il dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Les traits, ce sont des flèches donc que l'ennemi tire sur nous pour nous abattre, pour nous détruire. Il tire des paroles de doute, il tire des paroles d'incrédulité, des paroles de découragement, il va susciter de la division dans les couples, dans les familles, il va mettre des pensées de haine, des paroles de violence, tout cela, il va l'alimenter avec ses traits enflammés comme une sorte de criblage pour éloigner les gens de Dieu. Alors il y aura toujours des traits enflammés, puisque le texte dit que nous devons éteindre ces traits enflammés. C'est bien qu'il y a des traits enflammés qui sont constamment tirés sur les croyants. Le diable donc continue le combat, il continue à viser les enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a toujours un combat spirituel. Mais en même temps, le Seigneur nous dit, mais prenez le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est ce qui va permettre de faire un frein à ce criblage, à cette violente attaque, et qui va permettre de nous garder dans la foi au moment de l'épreuve. C'est la seule arme efficace contre les traits enflammés. La connaissance biblique, ça ne suffira pas. Les années d'expérience ne suffiront pas. Il nous faut le bouclier de la foi. C'est bien de connaître la Bible, c'est bien d'avoir de l'expérience, mais il nous faut par-dessus tout cela le bouclier de la foi, parce que le texte dit, c'est par ce bouclier avec lequel, donc le bouclier de la foi, c'est avec ce bouclier que vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Donc il y aura toujours ces attaques, mais nous avons toujours à notre disposition le bouclier de la foi. Alors pourquoi le diable nous crible-t-il à longueur de temps? D'abord, il veut nous blesser, nous affaiblir. Si vous êtes blessé, vous allez devenir amer et vous allez commencer à rejeter les choses de Dieu. Il veut aussi nous arrêter dans notre prière, parce qu'un chrétien qui ne prie plus, eh bien, il n'avance plus spirituellement et il recule dans sa foi. Il veut aussi nous décourager, parce que quelqu'un qui est découragé, il va commencer à se plaindre de l'un, à se plaindre de l'autre, à se plaindre de Dieu, et finalement, il va infecter même d'autres personnes par ses propres découragements. Donc tout cela fait que le diable sait qu'à force d'usure, il obtiendra quelque chose. Alors nous ne devons pas être surpris. Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Voilà la position du chrétien. Il a compris qu'il y a un criblage. Il y a des traits enflammés qui arrivent. Mais il ne veut pas laisser à Satan l'avantage. Qu'est-ce que veut Satan? Il désire prendre l'avantage. Il désire dominer, il désire diriger les personnes loin du chemin de Dieu. Mais nous ne lui laisserons pas l'avantage parce que nous n'ignorons pas ses desseins et nous, chrétiens, nous devons avoir une bonne connaissance des desseins, c'est-à-dire des projets, des plans du malin. Il a des plans. Ce sont des plans de destruction. On est comme en guerre spirituelle. Dans une guerre, il y a des blessés, il y a des captifs, des prisonniers, des gens qui sont même tués. Donc, il faut connaître les desseins du malin pour les contrer. Ça implique de notre part d'être réveillés et d'être vigilants, parce que nous pouvons être chrétiens et endormis. Et un chrétien endormi, bien, quand on est dans le sommeil, on n'est pas conscient. Et à ce moment-là, on peut se retrouver attaqué ou blessé. On ne réagit plus. Le sommeil spirituel fait que les attaques du diable vont dominer sur nous. Donc c'est pour ça qu'il faut être réveillé, réveillé dans la foi, réveillé dans la prière et vigilant. En temps de guerre, on doit toujours être vigilant. On sait que l'ennemi peut survenir n'importe où, à un carrefour, dans un arbre, au coin d'un bois, il peut surgir et tirer parce que l'ennemi est là et il attaque dès qu'il peut. Donc c'est à nous d'être toujours prêts, toujours vigilants et de prier d'être gardés par le Seigneur. Parfois nous pensons que nous sommes en paix, on peut aller travailler à l'extérieur sans prier, sans se soucier, mais là on prend un risque très important, c'est qu'on n'a pas veillé, on n'a pas présenté la journée au Seigneur, on n'a pas été vigilant, et lui, l'ennemi, il cherche toujours des chrétiens un petit peu plus faibles, un petit peu plus endormis pour les affaiblir encore plus. Alors c'est à nous bien d'agir, de se placer devant Dieu. Et plus nous voudrons servir Dieu, plus nous serons criblés. Satan attaque les serviteurs de Dieu pour les affaiblir. Satan attaque les serviteurs de Dieu pour les empêcher d'accomplir leur mission. Pierre avait une mission ici, si vous regardez. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le premier. Pierre a été choisi par Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage. Quand Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Pierre avait une mission, c'était de servir à la construction, l'édification de l'église de Christ. L'église qui n'existe pas encore là, elle va commencer dans Actes chapitre 2, la première église va naître à Jérusalem. Eh bien, Pierre va être un élément de fondement de la première église, sa mission. Et Satan veut tout faire pour empêcher Pierre d'accomplir sa mission. Il veut empêcher donc les serviteurs de Dieu, les hommes ou les femmes qui servent le Seigneur à accomplir leur destinée, leur vocation. Pierre a donc une mission et Satan va faire en sorte de l'empêcher d'accomplir sa mission, de le décourager, de l'arrêter. Ce que Satan a fait avec Pierre, il veut le faire avec nous. Et aujourd'hui, il attaque les serviteurs de Dieu qui sont missionnaires, qui sont évangélistes, qui sont pasteurs, qui sont docteurs, qui sont prophètes. Tous les serviteurs dans l'œuvre de Dieu, les anciens, les diacres, tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, il les attaque pour les empêcher de faire l'œuvre de Dieu. C'est son activité, c'est ça le criblage. Donc, premier point, on sait que Satan, il agit pour cribler. Deuxième point, notre foi va être fortifiée malgré le criblage. La foi de Pierre va être fortifiée puisque Jésus dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Alors nous avons le criblage, oui, mais nous avons la force de Christ qui prie pour nous et qui est en communion avec nous. Pierre, c'est vrai, enseignait les autres. Il était imbu de lui-même. Il se croyait au-dessus des autres disciples, clairement. Quand il dit à Jésus, par exemple, dans Matthieu 26, 33, « Même si tu étais pour tous, c'est-à-dire pour les autres disciples, une occasion de chute, il pensait certainement que les autres allaient quitter ou allaient renier le Seigneur, mais il affirme, tu ne le seras jamais pour moi. » En fait, Pierre était présomptueux. Il se croyait au-dessus des autres. Alors, c'est facile d'avoir la foi quand on n'est pas dans l'épreuve, de faire des grandes déclarations. Mais en fait, notre attitude va se révéler dans l'épreuve. Et notre foi est passée au creuset. Par exemple, 1 Pierre chapitre 1, verset 6. C'est Pierre qui écrit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'épreuve de votre foi. La foi va être éprouvée comme l'or est passé dans le creuset, c'est-à-dire il est chauffé à haute température pour le purifier. La foi va donc être éprouvée, passée par le feu, mais pour que ça serve à la louange et la gloire et l'honneur de notre Dieu. Alors notre foi va grandir dans les épreuves, dans les difficultés, et au lieu de nous détruire, l'épreuve va nous transformer, avec l'aide de Dieu bien sûr, qui agit en nous, parce que notre foi va être fortifiée dans l'épreuve. L'épreuve ne va pas nous abattre, l'épreuve va être un moyen pour faire grandir notre foi. Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » C'est-à-dire, tu vas être criblé par Satan, tu vas avoir des épreuves, mais ces épreuves ne vont pas te détruire, elles ne vont pas t'anéantir, elles ne vont même pas annuler le plan de Dieu pour ta vie. J'ai prié pour toi, donc ta foi ne défaillera point, elle sera conservée, elle sera même fortifiée, un peu comme en passant au creuset ici, comme l'or périssable, cette foi qui est plus précieuse que l'or périssable, qui va au travers du feu ressortir purifié. Donc la foi de Pierre, en fait, va être fortifié, renouvelé, et il va ressortir plus fort après cette épreuve. On ne le saisit pas, en fait, on ne le comprend pas avec notre intelligence, mais les épreuves qui devraient nous éloigner de Dieu ou qui devraient nous abattre, eh bien, si nous restons en communion avec le Seigneur, elles vont être un tremplin pour nous permettre d'aller plus loin et faire davantage pour le Seigneur. C'est ça le miracle de la prière, que Jésus prie pour nous, il intercède pour nous, dit la parole de Dieu. Et donc, en intercédant, il fortifie notre foi. Il nous rappelle ses promesses. Alors, que faire quand notre foi chancelle? Eh bien, nous devons d'abord le reconnaître, tout simplement, humblement devant Dieu. On peut demander pardon à Dieu pour notre manque de foi, notre incrédulité. Ne pas penser que les choses vont s'arranger, on s'en occupe pas, puis finalement, tout va s'arranger avec le temps. Attention, quand on est négligent, on ne s'occupe pas des choses, on laisse les choses traîner, eh bien, les personnes s'éloignent du Seigneur. Attention. Nourrissons plutôt notre foi de la parole de Dieu dans 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez pour le salut. Voilà la nourriture de l'enfant de Dieu, c'est le lait spirituel et pur. Et Pierre explique que ce lait spirituel et pur, c'est la parole de Dieu. Si vous l'absorbez comme elle est nécessaire pour notre âme, eh bien votre foi sera bien nourrie. C'est un petit peu comme ce lait maternel pour le bébé. Il va se nourrir de ce lait, il va être fortifié. Eh bien, cette parole va être pour nous de la force pour notre foi. La parole de Dieu, c'est l'aliment de la foi. Alors, si vous vous sentez vide et sec, c'est que vous n'avez pas la bonne alimentation pour votre âme. Il y a une nourriture de ce monde qui va vous rendre sec et vide. C'est la parole de Dieu qui va combler votre âme et votre cœur et nourrir votre foi. Et puis, un troisième élément, c'est la reprise du service, puisque Pierre va flancher, il va avoir un moment de reniement, il va chuter, mais Jésus voit déjà la réhabilitation. C'est au verset 32. Donc, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, on en a parlé. Et toi, quand tu seras revenu, alors le terme original, c'est quand tu seras converti ou quand tu auras fait demi-tour, quand tu seras revenu à Dieu, affermis tes frères. Donc Jésus parle déjà de réhabilitation pour Pierre, qui va connaître une chute dans son ministère, dans l'appel, la vocation qui était sur sa vie, qui était de servir de pilier à la construction de l'Église. Il va avoir une sorte de chute, puisqu'il a été présomptueux, il a été orgueilleux, il se mettait au-dessus des autres disciples, il se mettait en avant, alors il a commis des erreurs dans la vie, on commet tous des erreurs finalement, c'est facile de voir les erreurs des autres, c'est ce que Pierre faisait d'ailleurs, il voyait bien les failles chez les autres disciples, mais il s'est rendu compte qu'il y avait aussi des failles dans sa vie, et qu'il a eu besoin de demander pardon, il a appris aussi à laisser le Seigneur travailler sa vie, à être encouragé par le Seigneur alors qu'il était au plus bas. Lui qui se croyait fort, il a compris sa faiblesse. Et finalement, il a été transformé petit à petit à l'image de Christ et il a pu encourager les autres. Après la crucifixion, donc, lorsque Pierre a renié à 3 reprises le Seigneur, il est reparti à son activité de pêcheur, on voit ça dans les évangiles. Et pendant un temps, il avait peut-être même renoncé à servir Dieu. Il avait renoncé parce que il se considérait pas capable. Mais le Seigneur est venu le retrouver parce que le Seigneur ne nous oublie pas. Et s'il a formé un plan sur notre vie, il reviendra dessus. Alors il est venu le retrouver. Même si vous avez tout raté, même si vous êtes passé à côté, eh bien, le Seigneur vient vous retrouver. Il ne vous abandonne pas dans cet échec. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il va doucement le ramener dans sa vocation. Puisque là, Pierre ne se sent plus capable, il a même abandonné l'idée de servir le Seigneur un jour. Alors le Seigneur lui dit trois fois, m'aimes-tu ? M'aimes-tu, Pierre ? M'aimes-tu, Pierre ? Et à chaque fois, le Seigneur répond, Pierre répond, oui, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et trois fois, le Seigneur lui dit, paie mes agneaux. D'abord, il dit, paie mes agneaux, et ensuite, paie mes brebis. Pourquoi trois fois ? Ce n'est pas le hasard. Trois fois, Pierre avait renié Jésus. Trois fois, Jésus le réhabilite en disant, paie mes agneaux. Alors, ça veut dire quoi, paie mes agneaux ? Ça veut dire, occupe-toi de mon troupeau. Occupe-toi de mes brebis. Ça veut dire, occupe-toi de mon église. L'église qui va venir, l'église qui va arriver le jour de la Pentecôte, il va falloir la paître, la nourrir, s'en occuper, en prendre soin. Eh bien, Jésus dit à Pierre, je te qualifie, je te désigne comme serviteur de Dieu pour l'Église. Alors, Pierre avait perdu sa place de leader, il ne se considérait plus digne de servir le Seigneur. Jésus aurait pu très bien choisir un autre que Pierre, bien sûr, il y avait le choix. Mais on voit qu'il y a quand même un plan qui est sur la vie de Pierre et que Jésus veut amener ce plan à exécution. Pierre n'avait pas été fiable, il a reconnu son erreur et il est revenu dans les voies du Seigneur. Le principe, c'est que nous devons, alors déjà nous devons reconnaître que nous faisons des erreurs, tous. Nous pouvons revenir à Dieu et Dieu n'a pas mis de côté les projets qu'il a formés sur nous à cause de nos erreurs. Parce que Pierre va apprendre de ses erreurs, il a cette humilité. On voit que Pierre au début était très orgueilleux, il a appris à descendre et à s'humilier. Et c'est dans l'humilité, quand on apprend de nos erreurs, que Dieu nous place au bon endroit. Il y a ce cheminement de la descente. Il y a ce cheminement du chemin de l'humilité. Pierre va reconnaître sa nature fragile. Il va maintenant compter sur la grâce de Dieu. Il ne va plus faire confiance à sa propre capacité, sa propre nature. Il était hardi, il était vaillant. Mais il va apprendre à dépendre davantage du Seigneur. Et c'est en s'humiliant, en comprenant l'action de Dieu, que Pierre va grandir finalement et va rentrer dans sa vraie vocation de serviteur de Dieu. La vie de Pierre nous montre qu'on peut tous apprendre de nos échecs. Les échecs seront sur notre route, un jour ou l'autre. On aura une grosse déception, un gros échec. Voilà, ça fait partie de la vie. À nous d'apprendre de ces échecs, parce que au travers de ces échecs, on voit que Dieu a formé Pierre. Non pas pour là, il l'a pas anéanti là, il l'a formé pour devenir ce qu'il devait être, l'apôtre Pierre. Pierre a été transformé par Dieu, et si vous allez un petit peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, vous voyez Pierre qui a été réhabilité. Il a prêché l'évangile à ces gens qui venaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte, donc il vient d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a eu ce premier parler en langue où les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont mis à parler en d'autres langues. Les gens entendaient des merveilles de Dieu dans leur langue locale. Il y avait plus de 17 nationalités qui étaient là. Et comme les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, ils les prenaient pour des fous, ils parlaient dans d'autres langues. Alors Pierre leur a expliqué l'évangile et ce qui se passait. Et là, il a été transformé, puisqu'il a parlé de la part de Dieu, et 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Pierre était un vase brisé qui a été restauré. Eh bien, Dieu utilise des vases brisés qu'il restaure, parce que c'est là que la puissance de Dieu va être libérée, c'est dans des vases brisés que la puissance de Dieu est libérée. Jésus nous laissera toujours une deuxième chance, comme il l'a fait pour Pierre. À nous de reconnaître nos fautes, de ne pas s'entêter. Peut-être que vous avez raté votre travail, vous avez raté votre service, peut-être que vous avez raté dans vos relations ou dans votre famille, vous avez raté dans vos études. Ça ne veut pas dire que la vie est terminée. qui ne s'arrête pas par nos échecs. La vie de Pierre nous montre que notre vie ne se résume pas à nos échecs, mais que Dieu utilise notre vie pour sa gloire. La vie de Pierre n'était pas parfaite. La vie de Pierre avait des grands... Il y avait des hauts et il y avait des bas. Il a eu des hauts quand il a reconnu Jésus comme le Messie, puis il a eu des bas quand il a renié le Seigneur. Donc la vie est faite de sommets et de vallées. Eh bien, Dieu n'a pas considéré que cet échec, qui était quand même très lourd, très pesant, très grave, était un empêchement à l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas un empêchement. Et même Dieu l'a inspiré à écrire deux épîtres que nous avons dans la Bible aujourd'hui. C'est Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, qui les a écrits de la part de Dieu. Ce même Pierre-là qui a renié le Seigneur, qui a eu un très gros échec dans sa vie. Ben, ça n'empêche pas Dieu, nos échecs n'empêchent pas Dieu de nous utiliser pour sa gloire, de nous réhabiliter, de nous mettre là où il veut. Il a vu le cœur de son serviteur, il a vu son humilité. Il l'a élevé et il est devenu un des auteurs du Nouveau Testament. Donc le meilleur d'entre nous fait tôt ou tard des erreurs et c'est humain. Il n'y a personne, on n'est pas des anges, on n'est pas parfait, on a tous des failles, mais on peut apprendre de nos erreurs, sachant nous humilier devant Dieu et saisissons la main de Dieu. Nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Par exemple, une pièce de 1 euro que vous trouvez dans le caniveau qui est toute rayée, remplie de boue et toute sale, quelle est sa valeur en réalité? Sa valeur, elle est toujours de 1 euro, même si elle est en mauvais état. Sa valeur ne diminue pas par les saletés qui sont sur elle, par les rayures qui la marquent. Elle restera toujours d'une valeur égal à 1 euro. Vous la nettoyez bien, vous pouvez l'utiliser et elle ne vaudra pas moins qu'un euro. Notre valeur ne change pas à cause de nos échecs. Nous avons toujours la même valeur aux yeux de Dieu et Dieu nous aime toujours pareillement. Alors peut-être on a été blessé par la vie, un peu comme Pierre, criblé, on est passé par le criblage de Satan. Si Jésus a averti Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. D'abord, quand il dit vous, ça veut dire que tous les disciples sont passés par le crible. Bon, surtout Pierre particulièrement. Mais ça veut dire que nous aussi, alors nous sommes avertis par Jésus que nous allons aussi être criblés par l'ennemi. Alors, quand vous passez par le crible, ne pensez pas que tout est fini, ou quand vous passez par un échec, ne vous dites pas que c'est terminé pour vous. Le diable vous dira, c'est bon, tu es fini, maintenant tu t'en sortiras jamais. Comme il a dit à Pierre, maintenant que tu as renié Jésus, il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu peux faire une croix sur ton ministère, tu peux dire, c'est fini, tu ne seras jamais un apôtre, tu ne pourras jamais servir dans l'église, maintenant c'est fini. Ça, c'est le diable. Donc il vous crible. Le diable, il passe son temps à vous rappeler vos échecs, à vous montrer que vous êtes incapable, vous n'y arriverez pas. Mais Jésus, lui, il dit, j'ai prié pour toi. Donc, rappelons-nous toujours que le Seigneur est de notre côté. Il prie pour nous, il est avec nous, et il est puissant pour nous prendre bien bas tombé et nous ramener dans la voie qu'il a prévue pour nous. Il n'a pas changé son plan pour Pierre, malgré son reniement, et même il va plus loin, puisqu'il lui dit « quand tu seras revenu », donc il voit déjà l'issue, que Pierre reviendra et qu'il ne va pas rester en bas, mais que grâce, avec la grâce de Dieu, il va reprendre le bon chemin et va servir le Seigneur. Donc Jésus est l'auteur d'un nouveau départ et il nous permet de reprendre la route en comptant sur sa grâce. On va prier quelques instants. Merci pour cet exemple qui nous parle encore aujourd'hui de nos faiblesses, de nos limitations, de nos incapacités, de nos erreurs même, de nos mauvais choix, de notre présomption, un peu comme Pierre. Nous voyons combien ce criblage aussi peut nous atteindre, nous diminuer et nous faire réaliser que nous ne sommes que poussière et que nous sommes bien incapables. Merci Seigneur pour cette prière d'intercession, parce que tu pries pour nous, tu intercèdes pour nous, et tu permets Seigneur que dans les moments de criblage, nous soyons gardés dans ta main puissante. Merci aussi de réhabiliter, de restaurer le cœur de celui ou celle qui a été touché, qui a été atteint par les flèches, ces très enflammées de l'ennemi, pour le culpabiliser, pour le valoriser, pour le décourager, parce que Seigneur, c'est toi, c'est sur ta parole que nous allons nous appuyer ce soir. Comme tu as réhabilité Pierre, Seigneur, tu peux réhabiliter tous tes enfants et leur redonner un nouveau départ dans la vie, leur donner une nouvelle orientation pour ton service, leur donner une nouvelle vision, Seigneur, de ta maison, pour être des instruments à ta gloire. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire de ce que tu peux tout faire. Oui, nous sommes bien limités. Oui, nous avons des faiblesses. Mais Seigneur, nous comptons sur ton secours ce soir. Tu es ce Dieu de victoire. Tu es ce Dieu de consolation. Tu es ce Dieu qui a des chemins. Tu mets dans nos cœurs des chemins tout tracés. Et Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, ton amour. Tu nous rappelles que tu veilles sur nous, que tu pries pour nous. Alors nous voulons, Seigneur, nous attendre encore à ta main puissante au milieu de nous, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.